Amis de Radio Occitanie, de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors avant d'accueillir notre invité, qui cette semaine est Jean-Claude Ettori, je voulais simplement vous rappeler que jeudi, ce jeudi qui arrive, jeudi 24 mars donc, se produira notre ami Bruno Ruiz. Bruno Ruiz sera à la Maison de l'Occitanie à 18h30 pour un spectacle de 1h30 environ. L'entrée est absolument gratuite et nous vous invitons bien sûr à venir nombreux à la salle Père Bosque de la Maison de l'Occitanie, 11 rue Malcousinat à Toulouse, pour cette performance de Bruno Ruiz. Bruno Ruiz qui a été l'invité, entre guillemets, de l'émission dernière, ou l'avant-dernière, puisque nous avons donné carte blanche à Bruno Ruiz pour 1 heure d'émission, comme nous allons d'ailleurs, et je vais lui dire tout à l'heure, donner carte blanche à Jean-Claude Ettori pour qu'il nous livre 1 heure de chansons, de poèmes, de lectures qui seront passées ainsi à l'antenne et qui seront bien sûr toutes ces poèmes, ces chansons seront accessibles sur notre site lespoètes.site. Nous sommes un peu rattrapés par l'actualité, cette actualité qui se joue en Ukraine. Vous savez que Toulouse est jumelée à Kiev. Et donc, je voulais simplement, marquer un petit peu cet événement, vous rappeler ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, du côté, bien sûr, de la poésie, avec Anna Akhmatova. Alors, j'ai choisi une poétesse russe de renommée mondiale, parce que Anna Akhmatova a dit en 1941 « Je suis votre voix ». En 1941, cette voix revient du silence où elle avait été reléguée et affirme dans l'épreuve et la lutte collective, sans rien céder à un régime qui aurait voulu ne l'utiliser qu'à ses fins, la primauté d'une conscience individuelle, sa liberté, sa souffrance et sa vie. On ne forcera nul de nous à se soumettre, écrit-elle dans un de ses poèmes qui a été diffusé. Alors, 1941, qu'est-ce qui se passe en 1941? Eh bien, bien entendu, septembre 1941, c'est le début du siège de Leningrad. Donc, vous voyez les réminiscences. 1941, c'est Leningrad qui se trouve dans la situation plus extrême, bien sûr, dans laquelle se trouve Kiev actuellement. Et la poétesse Anna Akhmatova, elle est dans Leningrad. Elle a 52 ans et elle vient de connaître une longue période de silence, silence qui était imposé depuis 1923. Et tout de suite, à l'approche des armées allemandes, elle a pris part à la résistance. Elle s'est adressée à la radio, aux femmes de Leningrad, et ses poèmes d'Anna Akhmatova, ils sont placardés partout dans la ville. Le 28 septembre, elle est évacuée par avion sur Moscou. Et le 10 octobre, Moscou, qui est à son tour menacée, Anna Akhmatova est de nouveau évacuée à Tchitopol. Alors ça, c'est sur la Kama, c'est à l'est de Kazan, où elle retrouve une de ses amies intimes, Lydia Tchoukovskaya. Et en novembre 1941, donc, les deux amies arrivent ensemble à Tashkent. Akhmatova tombe malade du typhus, comme d'ailleurs le typhus qui était très répandu à cette époque-là, puisque Robert Desnos, dans son car à Térésine, est mort du typhus. Et elle aussi, elle manque de mourir, mais elle ne meurt pas. Et en 1943, elle édite un choix de poèmes à Tashkent. Le livre est vite épuisé, et elle retrouvera Moscou en 1944. et elle reviendra en juin 44 à Leningrad, donc parce que le blocus avait été rompu en janvier. Voilà. Donc, on retrouve cette situation de résistance, et puis de la résistance aussi par le verbe, le mot, le poème. Alors, les poèmes d'Anna Akhmatova, c'est des poèmes d'un laconisme absolu. Écoutez, serment, il y a 4 vers. Celle qui aujourd'hui prend congé de son amour, qu'elle fonde toute sa douleur dans sa force, aux enfants et aux tombes, voilà notre serment, on ne forcera nul de nous à se soumettre. Hein? Anna Akhmatova. Premier bombardement de Leningrad, et l'agitation bariolée des hommes changea soudain. Ni de la ville, ni de la campagne, un bruit. Cela ressemblait, ma foi, comme un frère au lointain roulement du tonnerre, sauf que, dans le tonnerre, il y a cette humidité des hauts nuages et l'ardent désir des prairies, annonce d'averses joviales. Mais c'était sécheresse de fournaise. L'oreille même n'en revenait pas. Cela s'élargissait et croissait, portant avec indifférence la mort à mon enfant. Les oiseaux de la mort se tiennent au zénith. Qui va venir en aide à Leningrad? Ne faites pas de bruit autour. Elle respire, elle vit encore et elle entend tout. Comment du fond de la Baltique, ses fils pleurent dans leur sommeil, et comme de son sein les cris du pain montent jusqu'au ciel, mais ce ciel est sans pitié, et elle voit à ses fenêtres la mort. À la mémoire d'un ami, et le jour de la victoire, doux et brumeux, dans l'aube rouge comme une lueur de feu, veuve anonyme sur une tombe, le printemps affairé s'attarde, pas pressé de se redresser, il caresse l'herbe, respire un bourgeon, fait descendre de l'épaule un papillon sur la terre, et tense le premier pissenlit. Anna Akhmatova, donc, qui a connu une période que malheureusement connaissent maintenant nos amis d'Ukraine. Anna Akhmatova, le vent de la guerre. Nous allons maintenant accueillir Jean-Claude Ettori. Jean-Claude Ettori, bonjour.
Bonjour Jean-Claude. Est-ce qu'il m'entend? Allô? Ce n'est pas de retour.
Alors, nous avons peut-être un petit problème avec Jean-Claude Ettori. Alors, qui est Jean-Claude Ettori?
Bien, nous le connaissons bien ici, Radio Occitanie, puisque il a habité longtemps à Toulouse.
Voilà, c'est bon.
Ah, allô?
Oui.
Ah, bonjour Jean-Claude. Je ne t'entendais pas. Voilà. Est-ce que tu entends bien?
J'entends très bien.
Parfait, moi aussi. Donc, la liaison est rétablie. Alors, Jean-Claude Ettori, nous sommes en relation, donc, par téléphone, dans cette émission en direct. Jean-Claude Ettori, tu es dans le Roussillon. Où est-ce que tu te trouves exactement, là?
Alors, je me trouve entre... Je vagabonde, hein, je suis bien sûr en ce moment dans le Roussillon, à Perpignan. Je suis souvent en Corse, et puis je fais des haltes aussi à Toulouse. Un petit peu moins en ce moment, mais plus régulièrement bientôt, car je suis en train de faire une nouvelle galette, un nouvel album avec mon producteur, voilà. Pas loin de Toulouse d'ailleurs, dans le Tarn, voilà.
Ah, très bien.
À Cabanès, exactement, voilà.
Bon, et nous suivrons cet événement de près. Alors, Jean-Claude Ettori, je te demandais de te présenter. Nous avons dernièrement eu l'occasion de faire une émission, de réaliser une émission sur tes deux dernières publications qui étaient, alors je parle là des livres, hein, pas des albums, hein. L'homme qui aimait,
hein, c'est de voilà, Diana, l'homme qui aimait Diana Krall et
Axel Boer,
le café à Gradas, voilà. une petite histoire policière, voilà.
Et puis le collier de verre, c'est des récits. Voilà. Également.
Des récits, voilà, qui ont été écrits, pour être bien précis, dans l'avion qui me ramenait de Montréal, voilà, en 2017.
Oui.
J'avais été invité au 33e Festival international de la poésie à Trois-Rivières, au Québec. Voilà.
Alors, donc Jean-Claude Dettori, donc vous l'avez compris, il est poète, il est comédien, il est chanteur.
Absolument.
Voilà. Et tu es, dit-on, un spécialiste de la voix, hein, puisque
c'est mon métier. Enfin, être comédien, c'est mon métier. Donc, la voix est importante. Hein, ça se l'a mis en 1970 à la carte poésie de Gouzène. Déjà, j'avais venu d'avoir 17 ans. Donc, bon, la voix pour moi est importante et je fais beaucoup de lectures sur scène aussi. Je dis toujours simplement que j'écris avec ma voix dans le texte des autres, bien sûr, des grands auteurs que je lis. Je lire ce que j'écris moi-même. Voilà.
Alors, tu as même obtenu le Jupiter d'or à Montréal.
Ah oui, alors ça, c'est une belle histoire. Oui, j'étais un des comédiens qui travaillait pour une société qui s'appelle La Croix et Ruggieri. Ça se passait à Toulouse, d'ailleurs.
Oui.
Et il se trouve que La Croix et Ruggieri a été faire un immense d'artifice pour une grande date historique à Montréal en 2002. Et voilà. Et il se trouve que le comédien qui lisait le texte historique de Montréal, c'était ma pomme. Donc, comme ils avaient réalisé une magnifique performance, j'étais associé à cette performance et j'ai obtenu comme eux le Jupiter d'or à Montréal. Voilà. C'est une récompense qu'on attribue aux comédiens qui sont associés, je dirais, qui étaient associés au travail de pyrotechnique de la Croix et Ruggieri.
D'accord.
Voilà, tout simplement.
D'accord. Alors, après ces deux publications, qui sont toutes les deux dans éditions Sabine, tu publies de nouveau, toujours aux éditions Sabine.
Hein. Absolument.
Tu publies deux livres. Bestiaire pour rire, mm-hmm. avec une magnifique couverture d'un ours, d'une tête d'ours sur un homme bras croisés et cravaté.
C'est un bestiaire, ça s'appelle Bestiaire pour rire. Voilà.
Et puis le deuxième livre, c'est L'absence est une invention du diable.
Voilà.
Alors nous allons, si tu veux, commencer par celui-ci, L'absence est une invention du diable.
Comme c'est toi qui dirige, je t'écoute.
Voilà. Et je crois que le mieux serait que tu nous lises quelques passages, quelques poèmes. Donc, de ce recueil, alors disons tout de suite, ce recueil donc, est aux éditions Sabine. C'est un recueil qui fait 35 pages.
Et paru en janvier 2022.
Voilà. Et donc, qui est tout récent et qui vous coûtera 13,90 €. C'est un très beau livre. Hein, c'est une impression qui est une impression un peu luxueuse. Hein. Le papier est très beau. Ce n'est pas recto verso, donc vraiment pour un recueil de poésie, c'est très. Et puis il y a des photographies qui sont des photographies absolument magnifiques, hein. Des photographies d'art en noir et blanc qui donnent.
Mon illustrateur qui s'appelle Patrice Jossé, qui a sorti de grand talent, c'est lui qui a réalisé la mise en page
Alors, voilà. Ces photographies, il y a un travail sur la lumière, sur le noir, le blanc et donc la lumière qui est vraiment et qui fait de ce livre un vrai livre d'artiste. Hein.
Je vous remercie, mon cher.
Non, mais ça fait plaisir quand on a de belles publications comme ça dans tous les sens du terme, quoi. Nous t'écoutons, Jean-Claude. Extraits.
Oui, je vais lire quelques extraits. C'est toujours embêtant de choisir soi-même, hein, c'est toujours gênant, même avec.
Nous t'écoutons.
Sur le seuil de ta porte, j'ai essuyé mes pieds de ce long chemin qui m'a mené à toi. Tu n'as pas dit un mot. De tes mains, j'ai déposé mes nuits, mes rêves pêle-mêle, recouverts de pollen. Près de la fenêtre aux fleurs, nous avons bu un café. Nous étions nus d'attente. À chambre blanche, tu as écarté les murs. Sur un lit de mille saisons, nous avons apaisé nos souffles. Nous avons frissonné en regardant ce plafond de mots que nous respirions à pleine gorge. Et sur nos peaux de Robinson, nous avons décoché le jour d'absence. Voilà, c'est un des premiers extraits.
Je te demandais de continuer un petit peu.
Oui.
Pourquoi ? On voit bien le ton de ce livre. Par exemple, la page 23, j'aimerais bien que tu nous lises ça.
Mais voilà, j'aimerais bien que tu choisisses. Oui.
Alors, page 23.
La poésie fait chier. Il avait surpris tout le monde avec cette phrase pleine de vin blanc et d'olives. Autour de la table, certains s'étaient mis à rire, alors il s'est mis à hurler. Tous se mirent à rire de plus en plus fort, à rire, à en pleurer. Il s'est mis à manger toutes les olives en buvant un autre verre de vin blanc.
Voilà. Alors, je crois que ce texte est aussi caractéristique de ce livre, hein, de ce recueil. Donc on voit, c'est une poésie très orale, bien sûr. Hein. Oui. Comme tu dis, c'est le travail de la voix, c'est la voix qui va porter ce poème. On voit que le poème, il est là pour être lu, pour être dit, après avoir été lu. Hein. Et en même temps, ce sont des espèces de scènes de la vie triviale, de la vie courante, de la vie ordinaire. Est-ce que...
Oui, voilà, j'ai toujours écrit dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour moi, la cité avec un grand C est importante. C'est le bruit de la cité, ce qui passe.
Oui. Et en même temps,
les jours aussi.
C'est par ce particulier-là, cette scène, par exemple, que tu décris, que l'on atteint tout de suite l'universel, quoi. C'est-à-dire, la poésie, c'est tout, mais il ne faut pas non plus. Je ne sais pas, il y a là quelque chose d'une définition en réalité de la poésie qui est à l'inverse, c'est-à-dire on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, et bien il va bien falloir qu'elle règne aussi.
Oui, mais tu sais, je disais, mon cher Christian, dans un précédent livre que j'ai écrit, un précédent recueil. Le titre de ce recueil, c'est la poésie, c'est comme les cons.
Oui, monsieur Nsa.
Donc, c'est vrai que bon, quand on parle de poésie, bon, souvent c'est de l'entre-soi, souvent ce sont des chapelles, ce sont des clans, il y a des milliers de poètes, et de poètes en France. Je ne connais pas tous. Nous avons la chance à Toulouse d'avoir une vigie comme toi, qui permet à toutes les poétesses aux poètes, ces écrivains et ces écrivains de s'exprimer depuis de longues années. Et moi, personnellement, tu vois, sur l'antenne, je t'en remercie parce que c'est une merveilleuse vigie pour nous. Voilà.
C'est bien ce que tu as dit, que la poésie, contrairement à ce que les médias, un petit peu, ou les gens qui se gossent, disent qu'elle est toujours moribonde, elle n'est pas du tout moribonde.
Pas du tout, elle a toujours existé, elle est bien vivante.
Elle est bien vivante, et même, je pense qu'elle est souvent pléthorique, même.
Absolument. Oui, c'est vrai, tu as raison de le dire, c'est vrai que, bon, par exemple, sur tous les festivals, sur ce qu'il y a en France, les prix de ceci, les prix de ceci, les prix de cela, on se dit, bon, chacun fait son prix, évidemment.
Oui.
Elle est ici, elle est là. Elle est toujours vivante. Ça, c'est important. Voilà. C'est important.
Je vais te demander, Jean-Claude, de bien vouloir lire le poème de la page 11.
Alors, le poème de la page 11, j'y suis. Ça ne m'étonne pas que j'ai ce livre. Je ne dirai pas mon nom. Tu me reconnaîtras à mes mots de semaille. De ma vie de bruit, ces lames sans fond, c'est là que s'endormit ces routes de terre, ces chemins de fleurs que baigne le soleil, ces pas de gouttes qui glissent dans le soir. Dans ces yeux d'enfant qui engorgent ton cœur, de ces mains qui s'envolent comme des oiseaux de passage, cette voix d'histoire, murmure de l'eau, une source au matin, au jour aveuglant, la course d'un voilier ensablé de rivage, cette cathédrale vide, au cœur de prière, ce théâtre aux mille cris, cette fille de feu a brûlé ma vie, ces hommes pendus au gibet de la foule, du tambour des sabots dans la plaine impériale.
Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Là, on voit qu'il y a un petit peu de provocation, là, de certaine violence qui est dans ce texte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est toujours difficile, hein, pour un poète d'expliquer son propre poème.
Je ne dirais pas mon nom, il ne reconnaît pas. On peut se reconnaître à ce qu'on fait de sa vie, chacun.
Oui.
On n'a pas besoin d'écrire son nom. Par exemple, je sais qui est Saint Paul, j'ai pas besoin de son nom. C'est ce qu'il fait. Je connais son action, je connais la intelligence qu'il met dans. C'est tout ça. C'est-à-dire, prier son nom. On nous reconnaît. Et ça, c'est important. Peut-être s'entendre nos cris, s'entendre nos actions, s'entendre aussi nos peines, nos regrets, s'entendre aussi ce qu'on n'aurait jamais dû faire. C'est essayer d'oublier les regrets parce que toujours. C'est deux fois coupable. C'est tout ça.
On va poursuivre avec la page suivante, hein, au bout du bout.
Ah. Au bout du bout, toutes ces choses entassées, ces visages, ces corps qu'on a mal aimés, ces paysages, ces horizons, ces nuits terribles et magiques, cet enfant qui nous attendait, cette envie de tous les jours pour revenir dans ses oublis, ce pardon qu'on... ces pleurs de vinaigre qui brillent Dieu, ces jours essorés au soleil du matin et toi, la seule que j'ai aimée, et ce diable que je prie pour te retrouver, et ces souvenirs qui défilent comme un train fou, et ces heures où tu m'éblouissais, ta voix toujours en moi, ces mains que je feuillette comme les pages d'un livre, avec tous ces mots de sucre qui ont fondu à mon absence. Alors, je retiens ce fantôme, sans être un membre, vous faites de vie, j'écoute craquer le chemin de mer.
C'est une...
Nous sommes au cœur de l'absence.
C'est-à-dire... Voilà. Donc là, il y a... C'est une profonde souffrance. Et...
Oui, parce que l'absence, c'est l'absence. Mais c'est défini par la perte de l'amour, d'un être qui est parti. L'absence aussi, c'est l'absence de la reconnaissance sociale. D'être écarté, c'est ça l'absence, c'est pas simplement la perte de notre cher, l'absence elle est aussi dans la société, elle est sociétale.
Oui.
Ce mot absence est terrible, c'est pour ça que je dis que l'absence c'est vraiment une invention du diable.
Voilà. Alors c'est bien ce que tu viens de dire, parce que ça explique bien d'abord le titre, et puis ce texte, hein, qui peut se lire donc dans les... Et avec cette multiplicité de sens, c'est-à-dire effectivement, ça peut être lié à un terrible traumatisme, un terrible chagrin que provoqué par la disparition d'un être cher. Et ce qui est de plus insupportable en disparition, c'est bien sûr, c'est une la palissade de dire ça, mais c'est l'absence de ne pas. On sait qu'il y a quelque chose, c'est l'irrémédiable. Bon. Et en même temps. Ce que tu as dit est très important, c'est-à-dire que on est dans une société où certains peuvent s'arroger le droit de dire aux autres « Vous n'existez pas, vous êtes absent. On fait sans vous. » C'est ça aussi de ce que tu veux dire dans ce texte.
Oui, je le dis d'ailleurs, je le dis parce qu'il a été écrit, cet ouvrage a été écrit, ce livre a été écrit. Pendant la pandémie.
Oui.
C'était sensible à ce qui s'était passé. Et puis surtout, juste bien avant la pandémie, c'est ce qui s'est passé en France, socialement, sont des choses qu'il ne faut pas oublier, parce que elles ont marqué, si vous voulez, un certain quinquennat. Et ça, on ne peut. Je le dis aussi dans ce. C'est une invention du diable aussi.
Voilà. Oui. Oui, c'est l'absence, par exemple, disons-le carrément. Le mouvement des Gilets jaunes est né aussi de ce sentiment.
J'en parle d'ailleurs, je le dis. J'en parle de ça, des Gilets jaunes.
Oui. N'arrivons pas à le retrouver.
plus quelle page il est d'ailleurs, mais je parle justement parce que c'est quelque chose qui m'a personnellement touché, de voir une France qui tout d'un coup sortait de l'oubli, j'appelle ça les oubliés, et qui essayait de pousser ce cri social pour montrer que bon, il voulait exister, qu'il voulait vivre, je dirais, d'une manière décente dans cette république, je dirais, qui vacillait sur ses talons de vie. Voilà.
Oui. Très belle image.
Oui, vous le trouverez d'ailleurs ce texte dans la Sainte-Invention Mondiale.
Voilà. Oui. Alors on va revenir à la vie. Triviale, la vie quotidienne, dans ce qu'elle peut avoir de terriblement familier, mais et donc universel, en allant à la page 20. Page 20 qui est en regard d'une photographie magnifique, hein, d'un corps de femme qui est à peine éclairé par un petit contour de lumière.
Ah, oui.
C'est une véritable œuvre d'art. Hein. On t'écoute, Jean-Claude.
J'aimais tant ce café chaud que l'on partageait le matin. Nous avions la peau plissée du demi de réglisse. Je regardais les chancrures de ton peignoir blanc qui m'invitait au voyage. Je ne voulais pas d'un poète, ni d'un griot blanc, seulement d'un homme de vie. Alors j'ai écrit une dernière fois le même mensonge. Sans cesse, chaque matin, je te découvrais.
Ouais. Donc il y a un érotisme certain dans ce texte, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il parle d'une nuit de réglisse et tu ne veux pas. Tu parles d'un griot blanc.
Oui, on m'a souvent appelé. On m'a souvent appelé pendant toutes les
années. Allô.
Blanc. Bon, j'ai jamais refusé d'ailleurs cette appellation, cette manière de définir.
Je crois, Jean-Claude, qu'il faut que tu parles plus près de ton téléphone, parce que
voilà.
nous avons des fois des blancs.
Ah, tu m'entends, là?
Excuse-moi.
M'entends
oui, bien? voilà. Très bien.
Je disais, j'ai repris dans ce texte le mot d'Angélio Blanc, puis je parle, on m'a souvent appelé dans des critiques, le griot blanc, voilà, donc j'ai toujours accepté, voilà.
Ouais.
D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de Gilles Jaune.
Oui, c'est la page 22, on va y aller.
Je vais le lire parce que j'aime beaucoup ce texte.
Page 22,
Parce que c'est un texte de partage. Pour
tout le monde. Oui. Allons-y.
Regardez cette jeune femme avec son gilet jaune. Elle avait le regard perdu au milieu de ce rond-point, où les voitures ralentissaient. Les camions, comme des bateaux, actionnaient leurs cornes de bois. Elle était sous les crachins, dans cette longue journée qui commençait. Pendant ce temps, la République vacillait sur ses talons aiguilles. On sentait le vacarme de l'histoire. Elle avait froid dans son cœur. La République vacillait sur ses talons aiguilles. Je marchais avec elle dans ses yeux, son cœur, 17 décembre 2018. Vague de France, en Corse et Outre-mer.
Voilà. Donc c'est le regard d'un poète et d'un artiste, donc, sur... sur la société, et bien entendu il y a dans ce regard il y a toujours cet aspect prophétique un peu,
et il a été écrit ce texte a été écrit le 19 décembre 2018.
Oui, tu le dis, 19 décembre 2018.
C'était hier. C'était toujours l'actualité.
Page 24.
Alors, page 24.
Je
regarde celui de la chaise où je suis assis, avec ses nuits, ses petits jours, ses froissies. Je le regarde. Il sait que je vais l'abandonner. Je ne regretterai pas mon empreinte. Je le laisse sans regret. Je vais ouvrir la fenêtre pour chasser tous les relents. Elle caresse une partie de l'oreiller. Je me lève. Chambre, je suis déjà très loin. Je ne sais pas où je vais m'en aller ce soir. Il sera longue, j'ai envie de marcher, de marcher.
Jean-Claude, je vais te proposer la chose suivante parce que on a un petit problème technique ici. De temps en temps, nous avons des blancs. Donc je vais te proposer, moi je vais lire les textes et si tu veux bien après, tu commenteras, hein, de manière à ce qu'on n'ait pas ces blancs dans la lecture des textes.
Écoute, il n'y a pas de problème. Voilà. Je suis le fils de l'édition.
Voilà, c'est la nécessité qui fait loi là. Parfois, derrière le miroir, il y a une ombre qui m'empêche de remonter le chemin. Il y a des choses très belles, des champs de lutte. L'ombre se met en travers, essaie de me convaincre. Ma colère devient terrible, mais chaque jour je recommence. L'ombre me guette et me harcèle sur le curseur de la grande route. Je retrouve toujours la même marque, je suis toujours au même endroit, à la même époque, au même moment. Je sais que je reviendrai un jour dans l'éclair de ton dernier regard. Voilà. Alors il y a là toujours cette nostalgie, mais également ce retour, hein, ce que tu dis, je sais que je reviendrai un jour dans l'éclair de ton dernier regard. Donc on retrouve cette prégnance de l'absence qui s'infiltre toujours dans l'instant que tu vis.
Oui, parce que c'est ça coupe avec ce qui s'appelle le souvenir. Mais on se souvient des choses où on était absent aussi souvent. Terrible entre le souvenir et l'absence.
Oui.
La raison pour laquelle dans ce texte je dis ça, c'est-à-dire que est absent, autour de nous, les gens s'absentent, les choses s'absentent, les sociétés, à l'intérieur de la société, c'est-à-dire la vie sociale est souvent absente. Donc, tout ça, ça fait partie aussi des souvenirs. Je n'étais pas là. Cette absence, le mot absence pour moi,
c'est ce que l'on a raté aussi, entre guillemets.
Oui, ce qu'on a raté, ce qu'on a oublié de faire, ce qu'on a raté, ça rentre dans ce mot absence qui a. C'est très, très large, je dirais, dans la vie de chacun.
En laissant derrière nous la longue nuit, mais dans le jour qui nous capturait, j'ai cueilli pour toi une immortelle. Nous avons rejoint la maison de nos jeux. Nous nous sommes retrouvés après un mauvais rêve. On a juré nos serments. On était seuls en ce temps revenu. Maintenant, j'ai le sel de ta bouche, la brûlure de tes yeux, l'odeur de ta peau. Je me suis fait sorcier, j'ai étranglé le temps, j'ai renié toutes nos peurs, je t'ai dit que le paradis n'existait pas, et j'avais surtout envie de toi.
Oui. On
trouve cet érotisme dans ce texte.
Parce que la vie est faite d'érotisme, la paix du sexe, la vie est faite d'amour, elle est faite. Je dis qu'il n'y a pas d'amour, il y a des petits bonheurs, et ces petits bonheurs qui s'ajoutent au bout du compte, qu'on appelle le bon. C'est vrai que bon, c'est le sexe aussi.
Oui. Mais il y a, quand tu dis j'ai étranglé le temps, c'est-à-dire que, tu sais, je pense toujours à cette phrase de Ramu qui dit le poète immobilise l'espace et il le guérit de sa maladie qui est le temps.
Ah. Oui, exact, c'est une belle phrase.
J'ai étranglé le temps. Voilà.
Le souvenir permet, le souvenir justement nous permet, c'est le temps, et de l'étrangler, de faire une pause dans ce temps-là.
Est-ce que le poème ne va pas plus loin encore que ça?
puisqu'il va figer le temps, le poème. C'est comme une photographie, ce texte. Voilà, il sera le même dans 100 ans.
Oui.
Et celui qui va le lire, il aura la sensation que l'on a aujourd'hui, 100 ans avant, quoi.
Oui.
Hein? Donc il fige le temps. Il fige le temps. C'est en cela d'ailleurs que le poète reste quelqu'un d'immortel, d'éternel, puisque sa poésie, elle, le temps n'a pas de prise.
Il y a une éternité là.
Oui. Je vais poursuivre. Je t'ai prise dans mes bras et nous avons dansé sur la piste vide. L'orchestre jouait pour nous. On tournait de plus en plus vite. J'avais attendu ce moment dans l'automne qui venait. Je ne sentais plus rien de ces années de veille où je t'ai espéré mille fois. Nous avons dansé encore avec un ciel tracé de comètes pour nous guider, nous retrouver.
Toujours pareil, c'est le souvenir, l'absence, et voilà, donc c'est ce souvenir, qui existe. Et le, oui. Ces mots, l'absence, son œuvre.
J'ai mis des nénuphars partout. Sur tous les chemins, sur toutes les routes, dans toutes les rues, avec des grenouilles chanteuses. Le bruit devint infernal, la ville coassée de partout, personne n'osait s'y aventurer. C'est ainsi que nous sommes restés, de longs mois, dans cette chambre, jusqu'à ce que l'été assèche notre attente. La porte de la chambre était scellée, on a continué à s'aimer, les grenouilles ont coassé à nouveau. Voilà. Alors, ça, c'est le langage, c'est la langue qui fait toute la saveur de ce poème. Ce n'est pas simplement la sensation, c'est comment cette sensation arrive à être totalement décuplée, à être anoblie complètement par la langue. Et ça, mais c'est le poète, quoi. C'est-à-dire, c'est Jean-Claude Ettori qui manipule la langue de manière à ce qu'on ait ceci, ce texte, quoi. Et c'est-à-dire que l'impression, la sensation, aussi forte soit-elle, ne fera jamais un bon poème. Ce qui va faire le bon poème, c'est avoir effectivement éprouvé cette sensation, mais comme Jean-Claude Ettori, cette sensation, avoir pu la tourner dans l'aventure de la langue et réussir dans l'aventure de la langue. Voilà. Et c'est en plus un poème, tu vois, quand tu lis ce poème, bien sûr, les grenouilles ont coassé à nouveau, la porte de la chambre était scellée, etc. Et nous sommes restés de longs mois dans cette chambre. Bon, il y a tout un décor qui se met en place. Il y a toute une scénographie qui se met en place, il y a tout un tas d'images qui se met en place, avec tellement peu de mots, une simplicité terrible. C'est ça le poème, et c'est un cadeau magnifique, en définitive.
Et tu sais, je vais te dire une chose, Christian, je dis toujours, je suis plutôt un raconteur d'histoire. Voilà.
Oui.
Me permet, voilà, je suis plutôt un raconteur d'histoire, je le dis.
Mais tes poèmes racontent toujours une histoire. Il raconte toujours quelque chose.
Je suis un poète, je suis un poète raconteur.
Oui. mais c'est ce qu'on veut entendre en définitive. Hein. Les gens, voilà. Qu'est-ce qui les intéresse?
Tu m'entends mieux là quand même, oui.
C'est pas très bon là. C'est pas très bon. Je sais pas de quoi ça vient. Il faudra qu'on fasse.
Attends, je vais essayer de.
Voilà.
Ouais.
En attendant, je vais poursuivre. Alors, je vais poursuivre, Jean-Claude, sur quelque chose que tu aimes beaucoup. Hein. C'est bien entendu la Corse, ton pays.
Oui.
Quand Ajaccio s'endort dans la nuit sortilège, ivre d'histoire et de polyphonie, et que tous les villages, dans la ronde des sentiers, la trace des anciens s'éclaire, on voit, dans le ciel rouge, un cerf volant d'oiseaux qui protège toute l'île, la terre embaume l'air d'une saison éternelle sur la plage des mémoires où les pas se retournent, les légendes revivent jusqu'à ce village du sud, Ulmétu.
Alors en français on dit Ulmétu, mais en Corse le U se prononce U, donc on dit Ulmétu.
Ulmétu. Ulmétu.
Voilà. Bravo, très bien.
Ulmétu. Alors, ouais. Donc c'est dans le sud, Ulmétu, c'est dans le sud de
C'est en dessous d'Ajaccio, oui. Ouais. C'est dans le golfe du Valais. Alors,
ça c'est un cri d'amour à ta terre quand même, hein.
C'est libre. Oui, une terre qui est bouleversée, une terre qui, voilà, qui est en ce moment.
Oui.
Une terre qui. Ne va pas bien, voilà.
Et tu dis dans la nuit, ivre d'histoire et de polyphonie, ivre d'histoire et de polyphonie.
Voilà, oui, parce que nous avons la Corse existe depuis 1700 ans.
Oui.
Donc nous avons une longue histoire de cette terre, une longue histoire. Et d'ailleurs, avant que la France ne rachète la Corse, c'était une île extrêmement prospère dans toute la Méditerranée. Au niveau des mines, c'est une île qui était très très riche et très très commercialement parlant, tout le bassin méditerranéen venait se servir en Corse. Et depuis 250 ans, c'était très bas. Voilà.
En tout cas, c'est un bel hymne, avec cette simplicité hein, qui te caractérise, hein, où tu vas à l'essentiel. Et qui fait mouche.
Oui, il faut aller à l'essentiel. Voilà. J'ai cité un grand poète que j'aime beaucoup. René Char disait, l'essentiel se menacé par l'insignifiant. Donc j'ai toujours eu cette phrase dans la tête depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et j'essaye d'aller à l'essentiel.
Tu y vas, par exemple, sur la notion de Dieu. Dieu sait que c'est un mauvais jeu de mots, c'est difficile, hein. Voilà, où tu dis, je crois en Dieu parce que je l'ai rencontré, dans un orage d'été, la pluie violente battait nos visages, ce n'était pas un vieil homme, il n'était pas barbu et n'avait pas de trône, on s'est abrité et nous avons parlé jusqu'au retour du jour, avant qu'il ne reparte je ne sais où, il m'a demandé une dernière question. Comme je ne répondais pas, il a posé ma question dans l'orage qui revenait. Mais qui es-tu ?
Eh oui, c'est pas la question.
Une belle image aussi là de Dieu. Alors ça me fait penser à il a posé ma question dans l'orage. Tu sais que Jupiter, lui, se servait de la foudre hein, pour éliminer tous ses rivaux. Et tous ceux qu'il n'aimait pas.
Absolument.
Je marche avec toi dans le retour. C'est un drôle de chemin que je ne reconnais pas. La rue est plus petite, il n'y a personne. J'aimerais entendre des voix, je cherche des empreintes. J'ai une photo dans les mains, je suis sous de nous. J'ai retrouvé le seul pleureur. Tout vole autour de nous. Tu es toujours là. Avec ton visage derrière la fenêtre. Je ferme les yeux pour mieux te voir. Je suis tout près de toi. Le temps se débat et accélère. Un combat s'engage. Il n'y aura qu'un vainqueur. J'ai la tête qui tourne. Le ciel est une tourmente. Tout se fige. J'entends des pas. Je t'entends respirer. Je déchire toutes les pages pour nous retrouver. Tu es là, de chair. Et magnifique, je t'aime toujours. Hein. Très beau poème d'amour. Hein. Mais là aussi, avec cette.
Toujours cette absence.
Cette absence, cette souffrance, quoi, cette plaie hein, permanente qui suppure, là, quand même, de l'absence. Mais peut-être que, justement, le souvenir, le poème et la langue, ce que tu fais de la. De la langue, comment tu arrives à convertir ça dans la langue, hein, arrive peut-être à faire de cette souffrance, à en faire au moins une œuvre d'art, et puis quelque chose qui, va toucher les autres, va toucher les autres, et qui va te permettre d'arriver à un partage. C'est comme ça que moi je lis cette page, ce poème. Avec l'âge qui descend, comme un jour qui s'éteint, tout devient tranquille. Tout se lit dans le blanc du ciel. Je marche dans le rituel quotidien. Chaque pas compte et s'ajoute. On passe à côté de l'album photo. On n'ouvre plus les pages de sa vie. Tout est écrit dans les plis du miroir. On s'assoit dans un coin de la nuit. On a les mains qui se cachent. Et cette odeur de partout mélange toutes les images. Rien n'échappe à l'étrange reflet. Immobile sont les choses qui m'entourent. Je m'enfuis vers le soleil. Voilà. Alors il y a l'espérance là quand même, hein. Je m'enfuis vers le soleil, bon, avec l'âge qui descend, bon,
et là... Tu m'entends mieux là? Est-ce que tu m'entends mieux?
Oui,
là, oui.
Alors il me semble, oui.
Ah voilà, oui, voilà. J'ai fait un réglage.
Voilà. Ah bon, voilà. Alors peut-être, on va faire un essai, est-ce que tu peux... Alors là, tu abordes aussi un problème, c'est le problème de l'âge, hein, de... avec l'âge qui descend, hein, comme un jour qui s'éteint.
Eh bien, oui, voilà. Oui. C'est quelle page ça?
Alors, ça c'est la page 32. Et je vais te demander, alors 33, tu en parles toujours encore. Je vais te demander, on va faire un essai pour voir si on t'entend mieux. Tu vas nous lire la page 33, s'il te plaît.
Alors, page 33, j'y suis. Tu m'entends mieux là?
Oui.
Dire son âge, c'est accepter le temps. D'ailleurs, il s'en amuse. Je n'ai pas d'âge parce que je me souviens. Le temps s'interroge, je n'ai pas vécu certains jours, il me faut tout recommencer. Le temps attend. L'attente est très longue. Le temps s'endort épuisé. Pendant ce temps, je découvre le secret de ma fuite. Les heures et les jours s'effritent. Je presse ces jours perdus, il y a comme un vide. J'essaie de réveiller le temps, il dort profondément.
Bon, donc un poème sur le temps, hein, je ne sais pas qui disait que le temps n'existe pas, puisque...
C'est ce que je cautionne. Le temps n'existe pas.
Et bon, y a, on voit là aussi, y a l'humour, hein, dans ce texte. Hein, pendant ce temps, voilà, le temps s'endort épuisé, pendant ce temps, je découvre, etc. Bon, il y a, c'est tourné sur la forme humoristique, du moins ironique. Hein, ironique.
Oui, un peu de dérision aussi.
Voilà, la dérision de soi, hein, qui, sur l'âge aussi, hein, dire son âge, c'est accepter le temps. Voilà, c'est l'acceptation du temps. C'est-à-dire, là aussi, des choses qui passent. Et,
c'est pour ça que je ne dis jamais mon âge, parce que je n'accepte pas.
et qui disparaissent, et alors là, on retrouve l'absence, parce que dans la disparition.
Hein? Absolument.
Et puis on arrive à la fin du livre. Je te laisse lire dans la page 34.
Ouais. C'est un peu. C'est presque un texte testament. Finir un livre, c'est une petite mort. C'est oublier le miracle de l'accouplement des mots dans ces moments uniques. Finir un livre avec un point, sans une autre ligne, c'est accepter l'attente, le retour de l'encre. C'est chercher un peu de chaleur. Finir un livre, c'est oublier l'absence. Laisser faire le sablier. Boire un verre de vin. Entendre les cris de la cité. Finir un livre, c'est croquer un fruit avec toi. Vivre avec toi. C'est marcher à tes côtés. Jurer que c'est le dernier livre.
Voilà. J'espère que non.
Hein? Oui, mais peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ce sera sous une autre forme, le prochain, voilà. Qui est en chantier, voilà.
Alors, est-ce que c'est très différent quand tu écris un poème pour un recueil comme ça, d'un texte que tu vas chanter, que tu écris pour être mis en musique?
C'est vrai qu'il y a... Ce sont des cousins germains, je dirais. Un texte pour chanter et un texte, un poème. Parce que la chanson a des règles quand même. Je veux dire, oui, oui. D'abord, premièrement, je souligne de 25 près, de 1000 près, la chanson, c'est un art populaire.
Oui.
Et il faut qu'elle puisse donner à ceux qui l'écoutent ce petit fil dans le dos qui fait qu'on va aimer cette chanson et qu'on va s'y retrouver dedans, surtout. Parce que la chanson, c'est comme la poésie, c'est du partage. Oui. C'est pas simplement une chanson qu'on chante pour soi-même. C'est pas un texte qu'on écrit pour soi-même. À un moment donné, ce texte nous appartient plus, cette chanson nous appartient plus. On le fait parce qu'on l'écrit, on la chante, parce que bon, on espère qu'elle aura un écho et qu'on retrouvera cet écho, ce propre écho qu'on le retrouvera chez les autres. C'est le sens du partage. Je tiens beaucoup à ça. C'est pour ça que quand on est sur scène, on n'est plus sur scène pour soi, mais on est sur scène pour les autres. Voilà. Et cette attitude est très importante. Et c'est vrai qu'écrire une chanson a certaines règles. Par exemple, il y a du phonétique, il y a du bruit. Il faut trouver des mots avec du bruit. Il faut trouver des mots, je dirais, qui permettent de s'accoupler avec la musique. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que une bonne chanson, c'est une composition et une écriture qui mutent ensemble. C'est très important. Voilà.
Oui. Ce que tu dis, une chanson, il y a des règles, etc. C'est vrai que ça obéit quand même à une certaine contingence de forme. Je me souviens d'Yves Charnet, qui racontait qu'il avait fait un petit poème pour que... pour être mis en musique et que pour que Claude Nougaro, il l'avait fait pour Claude Nougaro et
là, les grands,
et Claude Nougaro avait dit ça, il a dit ouais, j'ai bien reçu ta petite récitation.
Mais ben oui, mais bon, bah, là,
Nougaro, je ne peux rien en faire.
Voilà. Je me souviens, je sais qu'il y a un Toulousain qui chante Nougaro, qui fait une émission radio d'ailleurs, tu dois connaître certainement. Je crois qu'il est sur Sud Radio d'ailleurs. Bon, c'est un, voilà. Mais moi, j'ai commencé à chanter Nougaro quand je faisais du théâtre, j'avais 13-14 ans. J'ai commencé à chanter Nougaro dans les débuts des années 60. Oui. Donc, je suis très attaché à ce chanteur et je dirais au travail sur le texte qu'il faisait.
Oui, oui.
Et moi, je suis un fou de Claude Nougaro. J'adore cet artiste.
Mais il te rejoignait puisque pour lui c'était écrire une chanson, ça obéit quand même à un formalisme et à une construction, à une architecture qui n'est pas celle de la simple récitation comme il disait, du poème quoi. C'est, voilà.
Oui, quand il dit, par exemple, il y a une chanson que j'ai beaucoup chantée, une petite fille en pleurs. Bon, je veux dire, oui. Cette chanson, oui. Bon, je veux dire, elle claque comme ça. Oui. C'est des bijoux, bijoux.
Oui,
les chansons de Claude Nougaro qui sont exceptionnelles.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la langue, il y a le rythme, il y a...
Ah oui, bon, puis c'était un homme...
Oui.
Il avait la musique dans le sang. C'était un bluesman, c'était bon, voilà. Ça n'aurait pas fait envie de chanter une chanson de lui, tu vois. J'adore Claude Nougaro, il nous manque.
Nous aussi. Jean-Claude, le problème, c'est que nous sommes un petit peu mangés là par le temps et nous n'avons pas abordé ton deuxième livre, c'est Bestiaire pour rire.
Ben, je t'en lirai un seul.
Voilà. Et nous en reparlerons. Hein. Voilà.
Oui, mais c'est Bestiaire pour rire.
Alors maintenant que tu as réglé ton appareil et que l'on t'entend bien,
voilà, oui.
tu peux nous lire, nous t'écoutons.
Alors. Je vais choisir, attends, deux secondes, je cherche, parce qu'avec l'email, c'est pas facile, que j'avais... Voilà, nous y sommes. Rien n'est plus terrible que la mort d'une abeille. Et pourtant, qui s'en inquiétait dans cette armée qui venait piller le miel du pays de Corse? L'abeille écrasée par une sandale cloutée du légionnaire qui mangeait un rayon de miel n'était pas tout à fait morte, elle résistait. Un enfant, caché derrière un grand tilleul, vint porter secours à la reine blessée. À l'été suivant, au moment de la récolte, quand les soldats de Rome vinrent à nouveau pour accomplir leur forfait, un nuage géant cacha le soleil brûlant. Une nuit noire recouvrit toute l'île. Les légionnaires n'arrivaient plus à se diriger. Ils tombèrent tous du haut d'une falaise. La légende raconte qu'à partir de ce jour, un enfant abeille protège chaque été toutes les abeilles de l'île depuis 2000 ans.
Très beau. Très très beau sur les abeilles.
Voilà, dans ce sens, c'est 26 récits sur des animaux qui se mêlent aux humains. C'est un peu une satire sociale aussi, voilà. Oui.
On va prendre, par exemple, la satire sociale, tu parles. Rodolphe était un comédien l'exorbisé.
De la
page 11.
Ah oui, yes. Rodolphe était un comédien l'exomilisé. Chaque audition lui était fatale, il était refusé. En réalité, il oubliait toujours son texte. Et malgré sa mémoire défaillante, il insistait. Il prit la décision d'acheter un perroquet. C'était un vieux perroquet peu bavard. Il commença à lui lire les textes choisis pour qu'il devienne son répétiteur. Le perroquet était muet et mangeait ses pistaches. D'abord, il l'insulta de tous les noms d'oiseaux. L'oiseau hagard rota ses pistaches et lui jeta à la tête ses textes en boule. Le perroquet les évitait avec amusement. Rodolphe devint un fou et serra le cou de l'animal. Maintenant, le perroquet est empaillé. Rodolphe continue à lui lire ses textes. La voisine du premier étage est anéantie. On lui a volé son vieux perroquet.
Voilà. Voilà. Alors, il s'agit de Bestiaire pour rire. Voilà, de absolument. Jean-Claude Ettori aux éditions Sabine.
Voilà, bon livre que vous pouvez vous procurer en me joignant sur ma page Facebook en message privé, Messenger, ou au numéro de téléphone que tu peux donner si tu veux à l'antenne, voilà.
D'accord. Et alors, donc, très...
Donc je viendrai faire une signature certainement à Toulouse.
Oui.
Bon, là, c'est une période un peu particulière, je dirais. Entre le monde est en effervescence, la France est en effervescence, on est à la fin peut-être, je dis bien, espérons-le, de la pandémie. Oui. On est en pleine élection présidentielle, législative qui arrive.
Oui. Après donc, tout ça.
Bon, voilà, oui, je pense après tout ça. Après tout ça, je viendrai faire une dédicace lecture, comme j'ai l'habitude de le faire. Toulouse, bien sûr, tu en seras averti.
Nous t'attendons et tu le sais que tu es toujours le bienvenu ici.
Mais je remercie Radio Occitanie, je me permets de t'envoyer le bonjour de quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Hugues Valbert.
Ah oui, justement, je voyais que tu avais publié tes premiers textes à Publisud, où je crois qu'il a travaillé.
Non, c'est ça. Hein, voilà. Il a travaillé, il était directeur de voilà.
Bonjour de Radio Occitanie, Hugues Valbert. Voilà. À bientôt, Jean-Claude. À très bientôt.
Et je te tiendrai au courant pour le CD qui va sortir aussi.
Entendu.
Merci à Radio Occitanie, merci à toi. Et longue vie à notre visite, Christian Saint-Paul.
Merci Jean-Claude. À très bientôt.